Vous écoutez
Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Le monde est confiné, les restaurants sont fermés ou presque. Serial Causeur fonctionne et nous sommes obligés de cuisiner par nous-mêmes. Pas d'échappatoire, surtout si on veut manger. À qui est au bout de sa vie, les chefs de France pleurent et Serial Causeur vous invite à sa place pour parler de cuisine. Ici, pas de recette miracle, on décortique juste ce qui fait le sel de la vie, manger. Hein, qui t'es d'accord?
Si, pour ne pas être d'accord, je ne vois pas comment. Oui, je suis d'accord. Voilà.
Et on va, tais-toi. Et on va faire ça, bien sûr, en parlant évidemment de séries. Donc, entrée, plat, dessert. Dessert avec un S, car nous sommes de gourmets gourmands à Serial Causeur. Oui, c'était compliqué à dire quand même. C'était bien écrit, mais c'était compliqué à dire. Et en plus, on aime tout. Notre palais aime les plats traditionnels de Brivant-de-Camp, la gastronomie de Suki St. James. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un chef dans Gilmore Girls. Les tartes de nez de Pushing Daisies et même les plats de l'école d'ici tout commence. Il n'y a qu'à qui peut en parler. Donc, on va commencer avec un amuse-bouche. Si je vous dis cuisine, vous me dites à qui?
Top Chef. Oh mon Dieu, c'était nul. Top Chef.
Voilà.
Tu ne présentes même pas en plus.
Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ah ouais, donc on va commencer à faire de tout avec un amuse-bouche. Donc, à qui est fait Top Chef? Tom, qui est là. Tu penses à quoi si je te dis cuisine?
Manger.
D'accord. Et je parlais en série. Tu penses à quoi?
Ah, cuisine. Feed the Beast.
Feed the Beast. Oh putain, oui, c'est vrai. La série d'AMC. Ah ouais, bien vu. D'accord. Okay. Et t'as regardé un petit?
Non, juste le premier. Mais ça m'avait marqué.
Ah ok, d'accord. Et c'est pas la série
avec
David
James Schwimmer. Sturgess, je l'aime trop.
Oui, et David Schwimmer.
Ah, ouais, c'est ça, et David Schwimmer, effectivement.
Et nous avons aussi autour de la table Maxime. Donc si je te dis amuse-bouche, non, si je te dis cuisine, pourquoi amuse-bouche, je ne sais pas. Tu me dis
Monica Geller,
oh là là, la super chef. Donc on va commencer avec en entrée, évidemment c'est moi qui fais le service. Pourquoi d'ailleurs, à qui vient de le mentionner, pourquoi la cuisine fonctionne mieux à la télé-réalité plutôt que dans la fiction?
Moi j'ai la réponse pour ça, alors là c'est facile.
Alors là, elle peut te le dire.
Ah, ben, vas-y, fais-nous rêver.
Mais non, mais tout simplement, la cuisine qu'on voit, enfin, ou les plats qu'on voit dans une télé-réalité sont vrais, donc on sait qu'ils peuvent être mangés, on sent le goût pratiquement quand on voit le plat arriver. Que dans les séries, je suis désolée, ok, parfois il y a des chefs qui sont personnages, mais en fait leur cuisine on la voit pas du tout et on la connaît pas, quoi. Voilà.
Mais est-ce que t'es sûre de regarder les bonnes séries? Est-ce que tu as regardé Chef, par exemple?
Tu parles de Chef S ou Chef sans S?
Non.
La série française ou...
La série française, parce que pour le coup, elle avait une certaine esthétique et a filmé les plats de manière très jolie.
Alors, je n'ai pas vu Chef, c'est vrai.
Qui est pourtant très bien.
Oui, pareil, c'est vrai.
C'est plutôt pas mal.
Oui, voilà, pas mal. Non, mais pas
L'entre parenthèse pour une série française, c'est ça? Ou parce qu'on sentait la parenthèse, là.
C'est un peu ça.
Voilà, oui, puis il y a des intrigues qui sont là en superflu de meurtres qui ne servent à rien. Bref. Les garçons?
Ça marche mieux en télé parce que c'est une mécanique super huilée qui se répète à chaque épisode, enfin à chaque émission. Et difficile de faire ça en série parce que bizarrement, on reste sur une émission même si c'est répétitif, alors qu'on ne resterait pas sur une série qui est répétitive. Donc, je pense que c'est juste au niveau du format où inconsciemment on se dit une émission va rester alors qu'une série il faut autre chose, quoi.
Est-ce que vous en regardez
même, les émissions même pour cette pour... même idée de personnage? Oui. Évidemment, pour les émissions faut des candidats.
Hélène Darroze?
Oui, ou Mercotte.
Mercotte, non mais c'est vrai, non mais c'est des, moi c'est des personnages de fiction en fait. Hélène Darroze, j'arrive pas à l'imaginer autre que ce qu'elle est.
Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi. Enfin Hélène Darroze, enfin tu m'aurais dit Cyril Lignac plus qu'Hélène Darroze déjà.
Mais pour moi c'est surtout une question de contexte en fait. Enfin la cuisine dans les séries c'est un contexte, alors que la cuisine dans la télé-réalité c'est le sujet.
Donc, absolument.
On regarde pas de la même manière.
Et pourquoi alors que pour le coup il y a quand même pas mal de choses intéressantes à traiter ce côté-là, quoi. Enfin là en ce moment on est en plein dans l'affaire MeToo des chefs, il y a du sexisme, il y a la pression, de la compétition, les problèmes d'argent, enfin il y a de quoi faire du drama en pagaille, quoi.
Justement
et c'est tout commence, voilà.
Justement, si on faisait une série sur ça, on parlerait pas de la cuisine, on parlerait du contexte de la cuisine et du contexte social, comment ça impacte la cuisine. Si on voulait parler de cuisine dans les séries, enfin, moi, vous m'excuserez, mais un épisode de 40 minutes où on nous apprend à faire un hachis parmentier, j'ai pas envie de regarder ça.
Bien sûr, il y a une narration, quoi.
Il y a Top Chef, il y a Objectif Top Chef, il y a le meilleur pâtissier. C'est la télé-réalité, elle est là pour ça. Alors que les séries, la cuisine peut, oui, juste être derrière et servir de cadre, mais à aucun moment c'est possible de fictionnaliser.
Bah, sauf si la viande qu'ils vont utiliser est issue d'un cadavre qui est caché.
Voilà.
Mais ça, c'est Hannibal.
En fait,
hein.
Je tiens quand même à dire, il y a la série donc, Street Food qui réussit à
rendre...
Série documentaire, tout à fait, qui est disponible sur Netflix. Il y a deux saisons. La première se situe en Asie, donc dans différents pays d'Asie, et la deuxième en Amérique du Sud. Et en fait, elle arrive complètement à contextualiser. Donc, à chaque fois, en fait, on va découvrir un plat typique du pays en question. Plusieurs plats même, pardon. Et en fait, autour de ça, ils vont construire non seulement autour du plat historiquement, etc., mais aussi autour de la personne, donc du cuisinier, qui démontre ce plat. Donc, il fait, pardon, je dis démontre, mais pas du tout, en fait. Mais qui va cuisiner le plat. Et là, franchement, cette série documentaire, elle a réussi à... J'ai pleuré devant, voilà. Parce que les histoires de vie de ces cuisiniers, c'est souvent des histoires improbables, des passés incroyables. Et bien sûr, c'est très tire-larmes, parfois. Mais là, pour le coup, je l'ai regardé comme une série fictive, tellement les histoires de chaque personnage étaient prenantes.
C'est exactement ce que j'ai vécu avec la série documentaire qui s'appelait Les Nouveaux Explorateurs, qui passait sur Canal+, qui s'intéressait à plusieurs sujets, et dont il y avait un des explorateurs qui était chef et qui partait dans des pays ou dans des régions perdues du monde, où c'est qu'il allait rencontrer des gens, vivre avec eux et cuisiner avec eux et apprendre des nouvelles choses. Et pour le coup, ça me faisait chialer la plupart du temps, même à la fin, quand il était triste de partir, et bien, ça me faisait quelque chose, quoi. C'est là où je trouve que la fiction, parce que c'était fictionnalisé aussi, hein, parce que l'arrivée, tout ça, machin, les rencontres, la façon dont tout se passait, c'est là où je trouve que ça manque. Enfin, ça manque. Moi, je trouve que ça manque, après, en termes de fiction. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat.
Mais j'ai un erratum à faire, parce qu'il y a deux séries qui ont traité de la cuisine en tant que telle, et que j'avais zappé. Et en fait, Tom l'a dit, il y a Hannibal. Ok, c'est un peu glauque. Mais en soi, il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes où ils esthétisent le fait de cuisiner et ça dit aussi quelque chose des personnages. Donc celle-ci est dans un registre totalement différent, l'épisode de Friends où Rachel tente de faire un diplomate et ils arrivent à faire ils arrivent à faire tout un épisode autour de ça. C'est les seuls, je crois, enfin dans mes souvenirs en tout cas, qui traitent. Ouais, il y a peut-être un épisode dans Desperate Housewives où elle s'échange des recettes de tarte au citron ou tarte aux pommes, je sais plus. Entre Catherine et Brie Van de Kamp.
Oui, sachant qu'en plus, dans Desperate Housewives, c'est quand même une intrigue quand même qui est beaucoup plus installée que ça, parce que Catherine et Brie montent une entreprise pour cuisiner, elles s'échangent des recettes. Enfin, y a quand même, ça dit aussi beaucoup, beaucoup du personnage, quoi.
Oui, mais là, pour le coup, c'est plus le fait des bisbilles qu'il va y avoir entre les personnages que ce qu'est la cuisine, parce qu'on les voit rarement cuisiner au final. Enfin, Brie Van de Kamp, tu la vois enfiler son tablier, tu la vois sortir le truc du four. Voilà.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc on va passer à la question suivante parce que c'est pour le coup ça parle un peu de la même chose. Est-ce que c'est un truc de riche la cuisine ou pas dans la télévision?
Je pense pas.
Si tu veux montrer des trucs raffinés, oui forcément. Quand tu vois Sweet Bitter par exemple, c'est un restaurant raffiné quoi. Donc t'es obligé de montrer ça pour glamouriser un petit peu le truc. Si tu montrais un fast-food, c'est pas. Mais après, tu peux faire la cuisine de tous les jours, ça passe. Mais il y a moins de côté glamour, donc tu peux moins faire des choses intéressantes, je trouve.
Honnêtement, je suis pas d'accord. Je pense que ce qui est intéressant quand on voit des shows culinaires ou quoi que ce soit, c'est aussi la technique. Et la technique, autant découper un concombre ou découper une truffe, j'ai dit n'importe quoi. Pour moi, ça a la même élégance que soit un concombre ou une truffe, quoi.
Ouais, mais tu découpes pas un concombre. Enfin, tout le monde ne découpe pas un concombre de la même façon, justement. C'est moi, je vais découper normal à la con, alors qu'un grand chef ou quelque chose comme ça va le découper autrement. Et donc, ça sera quelque chose de plus raffiné, donc pour les riches, fatalement. Enfin, le raffinement va de pair.
Les émissions de télé-réalité, c'est là où je trouve que t'as des parcours qui sont très beaux. Enfin, moi, j'aime bien regarder, par exemple, Top Chef. Dans ma coloc, on regarde Top Chef. Et t'as toujours le parcours d'un ou deux candidats qui viennent Oui, un peu de rien, un peu de nulle part. Tu vois qu'ils n'ont pas eu un parcours très prestigieux. Donc, et ils le disent dans leur cuisine, ça se ressent. On va retrouver les plats de grand-mère, donc ils font des cordons bleus. Donc, enfin, voilà, oui. il y a cette composante-là qui revient dans les shows culinaires que je trouve intéressant. Par contre, dans les séries, c'est clair que c'est un truc de riche parce que la seule série qui parle de cuisine et que ça vient pas de riche, c'était justement Feed the Beast, et on voit le succès que ça a eu.
Alors, ouais. Moi, j'ai l'autre exemple, c'est Gilmore Girls, parce que d'un côté, nous avons la cuisine de Suki Saint-James, qui est donc un chef, et, enfin, j'allais dire étoilé, mais je ne suis même pas sûr qu'elle soit vraiment étoilée, mais enfin, un chef reconnu, qui fait de la cuisine sophistiquée, et à côté, tu as Luke, qui, vous savez qu'elles sont en train de bouffer, et les filles, les Gilmore, qui sont en train de bouffer de la junk food à peu près toutes les 10 secondes. Et c'est là où c'est qu'il y a quand même un sacré fossé, où c'est qu'on te montre entre ce que tu peux avoir tous les jours et ce que tu ne peux pas avoir tous les jours. Et ça prouve que là aussi, c'est assez pour les riches, quoi. Parce qu'en plus, la junk food, de la façon dont les achètent les Gilmore, c'est par. Enfin, il faut quand même pouvoir se le permettre, quoi.
Dans Mom
aussi, oui.
Ah, bah oui, oui, oui. Oui,
oui, parce qu'elle travaille dans un restaurant, dans un grand restaurant. Et puis après, là où c'est qu'elles, elles vont manger, c'est dans un pauvre truc où c'est qu'elles mangent des salades, quoi. Enfin,
ouais, voilà. Et ils ont continué un petit peu ce truc-là dans le propos de riche contre pauvre avec Jill, oui.
Oui.
Utile, contre les filles qui vont dans un café banal où tout le monde pourrait se payer un sandwich, et elle a tout le temps des envies de homard, elle a des hauts standards, et en fait elle se retrouve à manger un pauvre sandwich, un club ton avec les filles. Enfin, il y a ce truc de décalage aussi au niveau de la bouche.
Et avec un certain dégoût en plus dans le plat qu'elle mange. Ouais.
Après, ça me fait penser, c'était dans un podcast de Bouffon, je pense, il y avait un pâtissier, je vais parler pâtisserie du coup, un pâtissier qui disait que autant dans la cuisine, ça se sentait du coup cette différence de classe, mais autant dans la pâtisserie, ça se sent beaucoup moins, parce que même quelqu'un de moins riche, par exemple, peut se permettre d'avoir de la haute pâtisserie, parce qu'une portion, c'est quand même accessible, quoi.
Tu parles des tartes de Ned.
Par exemple. Et alors qu'effectivement, la haute cuisine est beaucoup moins accessible au niveau financier.
Oui, voilà, au niveau des prix des produits que tu utilises.
Et c'est là aussi, je trouve que esthétiquement parlant, en fait, on se trouve avec des gros drames. Enfin, je parle de la fiction, hein, on se trouve avec des gros dramas dans des milieux de la haute cuisine, enfin, de la haute gastronomie, et puis après des comédies et des simples trucs avec de la junk food, quoi.
Ouais. Oui, The Beauty and the Baker, par exemple.
C'est ça. Et puis même Young and Hungry, qui c'est un mec qui est riche, qui arrive à se payer une chef pour lui faire de la bouffe sophistiquée. Et au final, elle, à côté, elle est tellement pauvre qu'elle mange de la merde qu'elle arrive à choper dans le restaurant juste en bas de chez elle. Enfin, et même, comment ça s'appelle, Two Broke Girls, quoi. Enfin, elles travaillent, elles arrivent à travailler comme petitement, et elles arrivent à se manger quoi, des muffins, quoi.
Ouais, mais pour le coup, c'est vrai que Two Broke Girls l'avait plutôt bien fait, ça. Où elles essayent de lancer leur truc de cupcakes.
Oui.
Et... Pour se refaire sur une vague en plus, hein, c'est ça aussi qui est fou.
Oui, 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 mais que t'as ce truc de... En fait, on donne un truc qui peut se vendre, en fait, que tout le monde pourrait acheter, et c'est comme ça qu'elles lancent leur business en mode un peu fancy, parce qu'elles font des jolis cupcakes, et elles se plantent. Et cette intrigue-là, moi, je l'avais bien aimé, comment on monte un business de bouffe et on n'y parvient pas parce que en fait on est pauvre et on n'a pas les ressources pour tenir le moindre choc. Et j'avais trouvé vraiment intéressant cette intrigue-là.
Après, c'est ça, vrai. Je pense que c'est valable pour tout type de business.
Oui, mais là, pour le coup, elles étaient vraiment dans la bouffe. Mais c'est un peu le même cas pour Pushing Daisies au final, parce qu'il ne fait pas de la grande pâtisserie. C'est tout le temps les mêmes choses.
Non, en plus, elles sont jolies, ces tartes. Mais,
elles sont jolies, mais c'est pas recherché.
Non, clairement pas. Et puis, comme disait Aki, c'est pour que tout le monde puisse se l'acheter, se le permettre d'acheter une part de jolis gâteaux. Est-ce que manger, c'est tabou dans les séries ou pas?
En fait, c'est chiant logistiquement.
Ah ouais.
C'est juste ça, en fait. Pour préparer une scène de nourriture, il faut déjà savoir que, déjà, normalement, donc, t'as pas le droit, bien sûr, à de l'alcool, mais la nourriture, elle est froide et tout. Donc, même dans Top Chef, par exemple, tout ce que goûtent les chefs, c'est froid, ça arrive jamais chaud.
Ça, c'est tellement triste.
C'est trop triste. Oui, donc logistiquement, c'est genre un cauchemar, en fait. Puis t'imagines, tu dois faire le plat en, je te dis n'importe quoi, en 50 exemplaires, parce que bah, du coup, t'as peut-être 50 prises. Donc tu manges une bouchée là, bah, faut rechanger, tu remanges la même bouchée. Enfin, je sais pas, c'est chiant, quoi.
Oui, si t'as un bon script, oui.
Oui.
Si t'as un mauvais script, les fours à corps.
Oui.
Mais de toute façon, tu ne les vois jamais manger, parce que le problème, c'est si tu manges vraiment, tu dois attendre que l'autre. Et avaler pour pouvoir faire la réplique. Donc c'est pour ça que les gens ne mangent jamais, quoi.
Justement, j'avais lu une interview d'une conseillère culinaire sur les séries. C'était dans une encyclopédie, je ne sais plus laquelle, une encyclopédie série, qui parlait de deux cas, Friends et Desperate Housewives, où il disait que Desperate Housewives, en fait, ils esthétisaient les plats à fond parce que personne ne mangeait jamais et qu'ils étaient tout le temps là pour le show, en fait. Et de l'autre côté, il parlait de Friends, où il disait que, en fait, dans la série, ils sont constamment tous en train de bouffer. Ils se retrouvent tous autour d'un muffin, d'une pizza, d'un plat pour Thanksgiving et tout.
Mais ils mangeaient vraiment.
Et ils mangeaient vraiment. Et du coup, elle disait que là, par contre, sur Friends, l'esthétique, on n'en avait rien à faire. Par contre, il fallait que ce soit bon parce que bah, les acteurs le mangeaient. Donc, il fallait quand même que ça ait un minimum l'air bon quand ils le mangent. Donc, par exemple, je sais pas s'ils en parlent, mais le diplomate, il me semble qu'il avait vraiment été fait comme ça pour qu'il paraisse vraiment dégueulasse quand il mange.
Alors attends, le diplomate, c'est l'histoire avec le gâteau que fait Rachel où c'est sucré et salé en même temps.
Parce que la pâche est collée, tu sais,
C'est ça. Et il me semble qu'il y avait une anecdote comme ça où il disait que ça avait vraiment été fait pour que ce soit vraiment dégueulasse à l'écran.
Oh
quoi.
Mon Dieu.
Et ils ont vraiment mangé le gâteau, le cheesecake qui était tombé par terre aussi à la fourchette.
Ça, je sais pas, je peux pas te dire, je demanderai à Jennifer Aniston la semaine prochaine.
Ok, merci. Et d'ailleurs, t'as parlé d'un truc qui me fascine, c'est les épisodes de Thanksgiving. C'est le seul moment où c'est qu'il y a de la bouffe à profusion à l'écran. Et généralement, on les voit jamais manger et c'est juste pour apporter. Alors, tu me diras, c'est fait exprès, il y a tout le monde autour de la table, donc il y a forcément du drama. Donc, c'est ça qui est fascinant parce qu'ils sont tous là, on les voit pas cuisiner. Il y a de la bouffe sur la table et on les voit pas manger et à la fin, ben, ça finit tout à la poubelle, quoi.
Ben, pour le coup, je reviens sur Friends, mais Friends, on les voit cuisiner. Il y a beaucoup d'épisodes où ils savent faire en cuisine. La cuisine, chez eux, c'est, enfin, en tant que pièce, elle est fédératrice, en fait. Ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps autour de la bouffe, autour de la cuisine. Alors que dans d'autres séries, en fait, j'ai l'impression, oui, comme tu dis, c'est... Bon, on a posé ça sur la table, mais en fait, ça fait 2 heures qu'on fout rien. Enfin, on a commandé chez le traiteur, quoi.
Est-ce qu'il y a un autre moment qui vous a marqué avec de la cuisine ou pas dans les séries?
Les gaufres de Leslie. Les petits déjeuners de Leslie dans Parks and Recreation. À chaque
ah
fois,
putain, mais quand tu dis Leslie, j'avais pas tilté tout à l'heure. Oui,
ah
oui,
bon
Leslie,
oh, mon Dieu.
Ah ouais, non, j'y étais pas du
shame
tout d'accord.
On you.
Oui, clairement. Ok, moi, c'est la gelée de... Alors déjà, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais c'est la gelée dans The Office. Mais bon, après, c'était juste un effet comique, mais voilà, ça m'a vraiment perturbé.
Le chili de Kevin, aussi, bah, dans The Office.
Ah oui, oh putain, oui, oh putain, oui, oh oui.
Moi, niveau bouffe, bon, après, là, c'est un peu glauque, mais la scène de Hurley dans Lost, où il est avec son beurre de cacahuète, ou son... Non, la mayonnaise, je sais plus.
Ouais.
Ils viennent de recevoir un colis qui est tombé, ils se demandent d'où ça vient et c'est que de la bouffe et ils se retrouvent. Cette scène m'a vraiment marqué.
Mais ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que c'est le gros, ils mettent le gros,
bah oui, oui, oui.
Officiellement le gros à se charger de la nourriture et puis après ils l'accusent tous de voler dedans. Mais enfin bon, bah,
Non mais pour le coup, le faire sur un épisode pour montrer que la faim est un problème, ok pourquoi pas, mais définir un personnage juste sur ça.
Sur son, en relation à la nourriture.
Bah, on a déjà parlé, mais voilà, pas sur Hurley quoi.
Oh, donc on va passer au dessert maintenant.
Pardon, j'étais en train de penser à une scène un peu gore aussi, mais c'est dans Insatiable. Je sais pas si quelqu'un a regardé parce que c'était pas terrible, je dois l'avouer.
C'est toi qui l'as regardé pour la faire renouveler, quoi.
Bah, en fait, à la longue, bon bref, c'était assez, c'était léger, c'était un peu fun. Mais pour le coup, elle est sujette à la boulimie, donc elle a donc des crises de temps en temps. Et franchement, il y avait des scènes un peu, enfin, trigger, quoi, vraiment trigger. Ils auraient pu mettre un disclaimer en mode attention.
Ah ben, exactement la même chose. Bon, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4 de The Crown, mais il y a justement tout un truc, toute une intrigue un peu trop rabâchée d'ailleurs, un peu trop lourde,
oui.
Sur Lady Di et sa supposée anorexie. Et c'est bien fait, c'est bien de l'avoir montré, mais c'est lourd, c'est lourd.
Ouais. Et là, j'adore, pour le coup, le disclaimer, je l'ai trouvé lourd aussi.
Ouais.
Voilà.
Oui, mais ça, c'était pour se prévenir en provision des procès qui vont tomber. Mais d'ailleurs, en parlant d'anorexie, il y a aussi les bracelets. Oui, les bracelets rouges, qui a fait ça vraiment de manière très très bien avec le personnage dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. C'était le rapport à la nourriture, et donc c'est fait et c'est traité, et je crois que c'était à la télévision française, ça doit être l'une des rares fois. Et c'était vraiment très très bien écrit, le coup, et je ne vais pas retrouver son nom. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors, passons au dessert maintenant. C'est ça le plus dingue, c'est que dans les séries, il n'y a pas forcément beaucoup de cuisine. Mais par contre, là, en plus, c'est Noël, donc ça tombe très bien. Vous pouvez ne pas aller dans les rayons de librairie flâner, mais il y aura quand même des livres sur les recettes de séries. Donc, il y a des livres sur les recettes de Desperate Housewives, de Game of Thrones, va savoir comment et pourquoi ils ont réussi à en inventer, de Modern Family, de Friends, de Downton Abbey aussi. Il y a même un livre de recettes tiré de la série Hannibal. Donc, c'est pour vous dire. Et de The Walking Dead.
Non, mais
The Walking Dead et Hannibal, quoi.
Je sais pas, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent en The Walking Dead?
Des
zombies partout. Du cerveau, oui, évidemment. Pour Halloween, c'est pas mal. Voilà.
Ouais, oui, d'accord, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent quand même tout un livre de recettes juste pour Halloween, quoi.
Ça m'étonnerait pas pour le coup. Tiens, on m'a parlé aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, d'un livre de recettes sur les plats de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball, donc voilà,
Bon, après, c'est très inspiré de l'univers, donc après, c'est pas. En plus, c'est du marketing.
Oui, c'est marketing.
Ah oui, ça, bien sûr. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal pour un monde idéal.
Non, venu des étoiles.
Venu des étoiles, c'est vrai. Pardon.
Et est-ce que chez vous, vous en avez un de ces livres dans ce genre-là?
T'as cru que je cuisinais, moi?
Je l'avais gagné à un événement. Il est beaucoup trop grand, en plus.
Ah oui, c'est le gigantesque, là, avec les plats de les derniers plats de je sais pas qui, là.
Ouais.
J'avais gagné Gastronomique.
Ah oui, mais on me l'a offert, celui-là aussi.
Mais que, enfin, en fait, j'ai du mal avec ce truc. C'est déjà, c'est super marketing. T'as pas envie, forcément. Enfin, ça ressemble pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas, en fait, le concept des livres de recettes de... Enfin... Ouais, à la limite, livre de recettes de Top Chef, ok, t'as vu la recette se faire sous tes yeux, tu sais comment t'y prendre, t'as un tutoriel, machin, mais inventer des recettes à Game of Thrones, mais...
Je suis pas d'accord. Je pense que ça peut motiver des gens qui ne cuisinent pas forcément, mais qui aiment vraiment beaucoup la pop culture.
Faire des soirées thématiques, des trucs comme ça.
Je pense que c'est assez convivial, et ouais, bref.
Je crois qu'on va tous se faire inviter chez Aki, hein, une soirée repas Game of Thrones.
T'as cru que je mettais un pied dans la cuisine.
C'est la peste la moins utilisée de la maison. Quoi.
T'as cru qu'elle allait inviter les gens. Non, mais moi qui avais eu l'idée d'un resto avec des plats en référence à des avec des séries. D'ailleurs, si quelqu'un m'écoute et veut investir.
Oui, et la carte était vraiment très bien en plus.
Oui,
et
vraiment.
Ben, oui, c'était des choses un peu qui étaient inspirées. T'avais le Jim et Pam, c'était un double burger, enfin des choses comme ça. Je pense qu'on peut faire ça dans l'amusement, mais après sortir une série de livres là-dessus.
Oui, et voilà, c'est ça.
À chaque fois, trouver la série pour. Autant faire la tarte de Twin Peaks ou.
Non, honnêtement, je suis pas d'accord.
De Friends, des choses comme ça, d'accord.
Tu l'as parcouru le bouquin, Maxime, quand même. Enfin, moi, je l'ai pas acheté, moi, mais je le trouve quand même hyper bien fourni. Les recettes sont en quali.
C'est hyper cherché, quoi.
Ça n'empêche pas, mais c'est que c'est inventer des choses à partir d'une série qui n'existe pas et faire du marketing autour. C'est ça qui
me. Oui, je vois.
Déranger, c'est bien un grand mot. Si les gens veulent acheter ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on te fait acheter un espèce de goodies d'une série alors que rien ne s'est passé là-dedans, à part on te colle un nom sur une recette qui ressemble vaguement. Et en plus, soyons honnêtes, moi, on m'a offert ça. Je n'ai jamais fait une seule recette. Et pourtant, je cuisine. Tous les jours, je cuisine, surtout le soir. Mais j'ai pas envie de faire ces recettes-là parce que je me dis qu'en fait, ça va être aussi compliqué que si je faisais un tiramisu et c'est juste, ils auront à poser un nom dessus. Enfin, non. Alors que oui, le comme tu dis, Tom, l'idée de je vais dans un bar et on me propose une bière au beurre. Tu vois, non, mais ça me fait rire, donc je vais le faire, mais voilà.
Ouais.
Donc on va terminer avec un petit Dijot. Alors j'avais écrit Dijot dans mon texte et moi Akin ne savait pas ce que c'était, donc c'était un
Dijot. Mais c'était pas un petit homme. Moi j'ai dit que je savais, je croyais que c'était Plouk. C'est pas pareil.
Quoi, le Dijot c'est Plouk? Mais j'ai encore pris des Dijot hier soir.
Ah non, ben, mais voilà. Le terme de Dijot.
Ah ben un digestif, Dijot.
Oui, mais ça fait Plouk pour moi. Voilà, parce que je suis snob. Mais oui, non. Ça fait provençal, provincial, attends. Pardon, pas provençal, ah oui, provincial, si vous voulez.
C'est pas, excuse-nous, nous ne sommes pas tous citadins acquis.
Donc, une petite question, vous avez un petit tour de table. Avec quel personnage de série voudriez-vous manger ou cuisiner?
Oh là, et
Attends, je réfléchis. Donne-moi deux secondes, que je ne sorte pas hein, une allez, connerie comme Top Chef encore.
Si tu me dis la pernelle de Sweet Bitter.
Ah ouais.
Mais non, déjà, elle sait rien faire, elle pourra te servir du vin, elle en mettra la moitié à côté.
Mais
non,
mais je mange avec elle.
Ah, super.
Non, laisse-moi deux secondes aussi.
Ok, Maxime.
Moi, j'aimerais bien prendre le petit-déj avec Leslie. Nope, dans Parks and Recreation.
Oui, mais en même temps, si tu dis des trucs comme ça, forcément, tout le monde aimerait. Quoique, bah peut-être pas un dimanche matin, parce qu'elle doit être trop intense pour un dimanche matin.
La question, c'était avec qui tu veux manger? Je vais manger avec Leslie. Après, avec qui tu veux cuisiner, c'est autre chose.
Ah oui, ben voilà, tout de suite.
Et du coup, cuisiner, je dirais Lee Pace dans Pushing Daisies.
Ah, pour le coup, moi, ça serait cuisiner, mais vraiment que cuisiner, parce que j'aimerais faire des plats aussi jolis, mais pas le cuisiner à lui, quoi.
Ouais, non, je sais pas.
J'ai pas de réponse non plus, là, c'est ouf.
Ben oui, et toi, Stéphane?
Ouais, toi, Stéphane.
Moi, j'aurais beaucoup aimé travailler avec, cuisiner avec Suki. Parce que ça doit être drôle de travailler avec elle. La gueule de ses employés qui sont obligés de passer après elle à chaque fois qu'elle fait un truc, c'était dingue. Non, mais ça, ouais. Non, Suki, ouais. Moi, j'aimerais bien être dans la cuisine de Suki.
Et tu veux manger avec qui?
Et je mangerai avec Lorelai. Pour manger de la merde et des pizzas. En fait, la façon dont on mange Lorelai, c'est la façon dont j'aimerais manger. Sauf que si je fais ça, ben en fait, je grossis, quoi. Donc, je le fais pas.
La façon dont tous les personnages dans les séries mangent, moi, j'aimerais manger comme Joey. Enfin, si j'avais les capacités de Joey, je le ferais. Mais cette capacité-là, oui, en effet,
Joey a grossi quand même de saison en saison. Hein,
oui,
enfin,
il y avait des raisons. Hein.
Et puis, c'est pas non plus... il a pas pris 60 kilos d'un coup.
Non, c'est vrai.
Il a pas fait de Matthew Perry.
Non, clairement pas.
Je pense que j'ai trouvé. Je mangerai avec Alicia Florrick.
Ben, elle mange pas, elle boit.
Donc, je boirai.
Elle mange pas.
Elle boit.
Voilà, donc je boirai. Et je pense que j'aimerais bien qu'Annibal m'apprenne à cuisiner. Ouais.
Ben, moi, je mangerai avec Michael Scott pour savoir ce qu'il m'aurait fait à manger.
Oh putain, son pied sur un grill. Bon ben voilà.
Est-ce que je peux juste dire un truc? En fait, je ne regarde plus du tout Ici tout commence. Hein. J'ai regardé les deux épisodes par curiosité, donc voilà, je rectifie les choses.
Je suis tombé dessus. C'était une compétition de plats, donc ça reprenait vraiment les codes d'une émission, quoi. Et ça marchait, quoi. Ça va. Dans une série, tu dis que c'est caricatural parce qu'ils font des. Enfin, c'est un peu cliché. Alors que dans une émission, le cliché fait vivre l'émission, quoi. Mais
et Francis Huster, il s'en sort?
Non, bah là, il est en duo avec Frédéric Diefenthal.
Oh mon Dieu.
Donc, déjà que Diefenthal n'est pas bon. Donc, à côté de lui.
Ça va. Oui, Diefenthal, oui, ça va. C'est pas le pire. Hein.
Oui.
Eh ben, dis donc. Vous avez quand même la foi, je trouve. Hein, mais enfin, bon, bref.
Non, c'est Ophélie Winter qui a la foi.
elle l'avait.
Bon, ben, je vais vous remercier à tous les trois. Merci Aki, merci Tom et merci Maxime d'avoir pris un petit peu de temps de manger
avec la note, du coup.
On va faire, on va appeler Muriel pour qu'elle nous fasse une division par quatre. Et voilà.
Aki n'a pas la référence.
J'ai pas la ref.
Moi, t'as pas la référence. L'addition Muriel Robin.
Voilà. Je savais pas.
Bon, là, vous allez regarder le sketch après, alors. Hein, voilà. Et sinon, merci beaucoup d'avoir écouté Sarah Causeur, et puis à très bientôt.
Merci Stéphane.
C'était avec plaisir.
Bye.
Salut.